Bonjour, je m'appelle Philippe Siversen. Bienvenue dans un nouveau podcast. Le thème aujourd'hui, les quatre modèles mentaux qui bloquent votre entité innovation de rupture. Alors, la création d'entités innovation de rupture au sein des grandes entreprises n'est pas nouvelle, mais malgré le temps et l'expérience, ces entités restent souvent bloquées dans leur action et finissent par être diluées dans l'organisation après quelques années, voire quelques mois. Si la direction générale en attend parfois un peu trop, il est en effet illusoire de penser que l'innovation de rupture sera réglée par une entité, si performante soit-elle, et cet échec est problématique. Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a néanmoins quatre modèles mentaux bloquants que l'on retrouve assez systématiquement dans ces entités et qui peuvent être changés assez facilement. Alors le nom des entités innovation de rupture varie, du plus banal au plus poétique, mais leur objectif est le même. Face à la prise de conscience des dangers des ruptures actuelles, elles doivent permettre à l'entreprise de lancer des innovations de rupture censées prendre le relais des marchés actuels. En raison même de la façon dont elles sont initiées et lancées, c'est-à-dire par la direction générale et rattachées à la direction de la stratégie ou de la R&D, pour faire simple, ces entités sont cependant marquées par quatre modèles mentaux très forts qui expliquent en grande partie le blocage de leur action. Alors le premier modèle bloquant, c'est l'intérêt du projet qui suffirait à convaincre les décideurs. Alors j'ai moi-même longtemps partagé ce modèle lorsque j'étais entrepreneur. Nous avions développé une technologie remarquable qui permettait à nos clients de réduire de 50% leur temps de développement logiciel, ce qui était évidemment considérable. Et je pensais que ça suffirait à ce que les bons de commande affluent sur mon fax. Alors à l'époque c'était un fax, mais il n'en fut rien. De même, je ne compte plus les équipes innovation qui pensent que par la vertu magique d'une présentation, elles pourront convaincre le COMEX d'investir dans leur projet magnifique. Eh bien, c'est oublier que l'innovation est un processus social bien plus qu'intellectuel. Le COMEX se méfie des innovateurs qui utilisent un vocabulaire abscon et veulent faire prendre des risques insensés à l'organisation en criant au loup, notamment celui de la rupture qui va nous tuer si nous ne faisons rien. De son côté, l'innovateur accuse le COMEX et la direction en général d'être composé de managers hostiles à l'innovation, avec pour seul horizon de pensée les 6 prochains mois. Comment convaincre le COMEX? Eh bien, c'est la mauvaise question. La bonne question, c'est comment mieux connaître les membres du COMEX pour faire tomber ses a priori. Autrement dit, tant qu'un lien social n'aura pas été créé entre les deux parties et entre les individus qui les composent, eh bien, la relation sera marquée par la méfiance et elle restera improductive. Deuxième modèle mental bloquant, celui selon lequel l'innovation de rupture, c'est forcément très ambitieux. Un responsable d'innovation de rupture partageait récemment avec moi sa frustration. Son équipe avait assez bien réussi à lancer des projets, mais ceux-ci étaient relativement peu radicaux et certainement pas en rupture. Nous sommes bons pour l'incrémental, où nos clients internes voient le résultat qu'ils peuvent en tirer à relativement court terme, mais nous ne progressons pas sur les projets vraiment disruptifs où nous n'arrivons pas à convaincre, me disait-il. Or, comme nous venons de le voir, le principal obstacle d'une entité innovation de rupture, c'est son manque de légitimité interne. Alors, elle subit un paradoxe qui est que la direction générale en attend beaucoup, alors typiquement, on veut 3 licornes pour l'année prochaine, mais de façon assez abstraite, tandis que le reste de l'organisation voit cette entité comme une dépense inutile, au mieux, et comme un risque pour l'activité actuelle, au pire. Et donc, loin de constituer une perte de temps, aux dépens de projets de rupture, les petits projets incrémentaux sont au contraire le meilleur moyen pour l'entité de développer sa légitimité en interne et de nouer des relations de confiance au niveau de l'organisation qui compte vraiment pour elle, c'est-à-dire les niveaux intermédiaires du management. C'est en effet dans ces niveaux intermédiaires que se trouvent souvent les blocages concrets, mais aussi les opportunités de projet. Les petits projets à ces niveaux offrent donc des occasions de petites victoires sur lesquelles on peut construire de grandes choses et notamment des projets disruptifs. Troisième modèle mental bloquant, celui selon lequel il faudrait choisir entre incrémental ou rupture. La plupart des innovations de rupture naissent non pas d'un éclair de génie ou d'un processus d'idéation de type océan bleu, mais de la vie courante. Autrement dit, bien souvent, dans les premiers temps d'un projet innovant, on ne peut pas savoir si celui-ci débouchera sur une rupture. Une rupture se décrète rarement. Rappelons que l'éclair de génie de la rupture d'Airbnb, ce fut, pour les deux fondateurs, de gonfler un matelas pneumatique dans un salon pour accueillir un hôte pour la nuit. Comment imaginer que 3 ans après, l'industrie hôtelière tout entière serait disruptée à la suite de ce banal gonflage de matelas, ce que nous avons tous fait un jour ou l'autre dans notre vie. C'est pour cela que la séparation entre une entité innovation incrémentale concentrée sur les améliorations à courte échéance et une entité innovation de rupture consacrée entre guillemets au long terme est une erreur, car le premier peut déboucher sur le second. C'est une raison supplémentaire pour l'entité innovation de nouer des liens de confiance avec les niveaux intermédiaires du management. Un banal projet d'amélioration incrémentale peut évoluer en un projet de rupture. On conçoit l'intérêt pour l'entité innovation au moment où cette opportunité émerge d'avoir investi depuis longtemps dans la relation. Quatrième modèle mental bloquant, l'idée selon laquelle l'innovation de rupture, eh bien, ça va de l'idée au marché. Alors que nous discutions de sa difficulté à diffuser ses idées disruptives au sein de son organisation, ce responsable d'un lab prenait conscience de l'importance de nouer des liens au sein de cette organisation et reconnaissait qu'il devait certainement passer plus de temps à vendre ses projets qu'à les concevoir. C'est vrai qu'il y a un travers assez français, une culture d'ingénieur exacerbée sans doute, qui met l'accent sur la sophistication de la technologie et a tendance à dédaigner les efforts de vente. Mais là encore, le modèle mental est bloquant. L'innovation de rupture suit rarement un processus linéaire, bien serré, partant d'une idée qui est développée et ensuite vendue, un modèle dit de technology push, dans lequel l'idée est poussée vers le client qu'il faut convaincre. Un autre modèle, basé sur la co-création, est préférable. Cette co-création est d'autant plus facile que la relation sociale et les liens de confiance que nous évoquions plus haut ont été développés antérieurement. En ce sens, la vente sert aussi bien à pousser ces idées qu'à les susciter. L'échange va donc dans les deux sens. Les clients internes ne sont pas que des consommateurs passifs de bonnes idées de l'entité innovation, mais des partenaires de création. L'innovation, en substance, est un processus social. Alors, il y a presque 200 ans, l'obstétricien hongrois Ignaz Semmelweis, en poste à Vienne, avait eu l'intuition correcte que si ses collègues se lavaient les mains avant de procéder à un accouchement, la mortalité des femmes, qui était effroyable à l'époque, serait réduite. Mais il s'est heurté à un mur d'incompréhension et personne ne s'est lavé les mains. Semmelweis pensait qu'il suffisait d'avoir raison pour que les autres soient d'accord avec nous, et il a refusé d'essayer de convaincre ses collègues. En outre, il était hongrois et souffrait donc d'une certaine condescendance de la part de ses collègues autrichiens, qui le voyaient comme un provincial un peu excentrique. Mal considéré et mal intégré au groupe qu'il essayait de convaincre, il a fini dans un asile psychiatrique, abandonné de tous. Alors, tous les innovateurs n'ont pas une fin aussi tragique, hein, heureusement, mais il est essentiel qu'ils comprennent que l'innovation est fondamentalement un processus social. C'est le lien social qui rend possible l'écart à la normale, en quelque sorte, que constitue l'innovation, parce que la confiance a été créée préalablement. Alors, il existe naturellement de nombreux moyens de créer ces liens, comme les activités sociales notamment, ou de petits projets incrémentaux, qui nous semblent parfois triviaux, mais qui pourtant sont essentiels. Le fait que l'action de l'entité soit bloquée par ces quatre modèles est une bonne nouvelle, parce que ça signifie que le déblocage est entièrement à sa portée. Donc en synthèse, quatre modèles mentaux qui bloquent votre innovation. Le premier, l'intérêt du projet suffirait à convaincre les décideurs. Le deuxième, l'innovation de rupture, ça serait forcément ambitieux. Troisièmement, l'incrémental ou la rupture, il faudrait choisir d'emblée. Quatrièmement, l'innovation de rupture, ça irait forcément de l'idée au marché. Alors, il n'y a pas de solution miracle au défi de l'innovation, bien sûr, mais la remise en question de ces quatre modèles permettra au moins d'ouvrir de nombreux possibles. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzahn.com. À bientôt.